Paul Arène, Les braves gens. Comme les vers à soie n'avaient pas réussi, la bonne Madame Pérolle se trouvait par hasard d'assez méchante humeur. Et Monsieur Pérolle, résigné, la laissait pousser ses « Ave Maria » sans trop rien dire. « 10 livres de cocon !» soupirait Madame Pérolle. « Pas même le prix de la graine !» Achetez-vous donc un châle avec ça. Que veux-tu, Ambroisine, tu te l'achèteras l'année prochaine. 12 mois sont vite passés. L'année prochaine, qui l'a vu? Une chose en tout cas certaine, c'est que je n'aurai pas encore le châle cette année-ci. Je peux chanter « Mon cœur soupire ». J'avais pourtant bien compté sur ce châle. Et Madame Pérolle s'étant tue, Monsieur Pérolle, qui crut à une accalmie, prit à un clou son sécateur avec l'idée d'aller faire un tour au jardin. Madame Pérolle l'arrêta. « Laisse donc les arbres tranquilles, tu auras demain le temps de les éborgner. Autrefois, sans qu'on s'en mêla, tous les ans, le vieil espalier portait. Mais depuis que le grand savant de Paris est passé par Canteperdry, et qu'il vous a fait au cercle cette fameuse conférence, depuis qu'il a fallu s'abonner à la revue d'Arboriculture, toujours dans tes histoires et tes méthodes, tes bourres, tes greffes, tes bourgeons à bois, tes bourgeons à fruits, tu coupes, tu rognes, tu tailles, et je ne sais plus le goût qu'ont les poires. » Froissé par cette philippique, dont il ne pouvait à part soi contester la justesse, M. Pérolle quitta le sécateur, tandis que Mme Pérolle revenait au sujet de ses doléances. « Tant de peine, et pourquoi? Pour rien! Voilà pourtant 2 mois que nous nous exterminions sur pied de nuit comme de jour, avec Scolastique à qui j'avais promis de donner mon vieux châle lorsque j'aurai mon châle neuf, et qui, l'hiver prochain, pour la messe de 7 heures, devra se contenter de sa pelisse d'indienne. D'abord, premier agrément, les vers à soie, s'étant trop pressé d'éclore, en avance d'une semaine, sans attendre que le ver eût poussé au mûrier, il nous a fallu chaque matin, pour leur nourriture, ramasser des feuilles de ronce le long des fossés, comme 2 bohémiennes. J'en ai encore les doigts picotés. Et après leur second sommeil, quand tout à coup ils sont devenus tristes, qui est allé, au risque de se précipiter, cueillir dans les rochers du fort la lavande et la marjolaine nécessaires aux fumigations, et tant d'autres tracas encore. Enfin, tout marchait bien, aligné sur les étagères, mais 50 cabanettes en belle bruyère de lure n'attendaient plus que les cocons. Mes vers à soie achevaient de dormir, détroits, roux comme l'or, gonflés, transparents et suant la soie. Déjà, ils grimpaient le long des brindilles. Les plus braves filaient déjà, accrochaient leurs fils à droite, à gauche, quand est survenu cet orage. Alors, au premier coup de tonnerre, j'ai vu les pauvres bêtes redescendre et venir mourir sur leur litière. Un désastre. Scolastique pleurait. J'avais envie d'en faire autant. Monsieur Pérolle, ému, puisa pour se donner du courage une double prise dans sa tabatière en écaille qui grinça. Et pendant quelques secondes, silencieusement, Madame Pérolle et lui s'entre-regardèrent. Monsieur et Madame Pérolle, ou comme on les appelait plus communément dans le pays en manière d'affectueuse familiarité, Monsieur Victrice et Madame Ambroisine, étaient, dans toute la force du terme, des personnes de l'ancien temps. Bien portants, quoique très âgées, leur mariage s'était fait alors que Charles X vivait encore. Ils vivaient de petites rentes, de toutes ces petites rentes qui autrefois suffisaient à constituer la fortune. Pauvres, au fond, ils ne s'en apercevaient pas, ayant vieilli sans se créer aucun des besoins de la société nouvelle. Et ils étaient heureux à la manière d'il y a 50 ans, dans leur maisonnette de la grande place, où les meubles fanaient peu à peu, les glaces lentement ternies, gardaient pour eux, grâce aux souvenirs, une même et immuable fraîcheur. Seulement, à chaque retour d'avril, Madame Ambroisine, dans un haut grenier blanchi à la chaux et transformé en magnanerie, faisait une once ou deux de verre à soie. Et quand la réussite était bonne, cela leur permettait de s'offrir quelques douceurs. L'élevage des verres à soie n'est pas considéré à Canteperdrix comme travail artisan, et la bourgeoisie attardée et appauvrie de ce coin de province aime à se créer ainsi, sans croire déroger, un modeste supplément de revenus. Mais hélas, les verres à soie de Madame Ambroisine n'avaient pas réussi cette année. Soudain, la bonne figure préoccupée de Monsieur Vitry s'éclaira. « Sommes-nous bêtes, et je n'y pensais seulement plus. Mais je peux te l'acheter, ton châle. Notre rente du jas de Bramefin, nous ne l'avons jamais touchée, depuis l'héritage du pauvre oncle. Voilà 2 années de cela. À 150 francs par an, le total monte à 300 francs, sans les intérêts. Juste ce que tu espérais de tes cocons. » Là-dessus, monsieur et madame Perrol s'exaltèrent. Peut-on se laisser lanterner ainsi? 300 francs? Mais c'est une somme! Et ce fermier, ce Frédéric, dont il n'avait jamais seulement aperçu la figure. Une semaine durant, monsieur et madame Perrol ne parlèrent que du voyage, car ce n'était pas précisément chose commode que d'atteindre le domaine de Bramefin, perché dans la montagne, au-dessus du village d'Entrepierre, lui-même déjà perché haut. 4 heures pour monter, autant pour redescendre. Une absence de tout un jour. Le dimanche, on se trouva prêt. Une voisine avait prêté son âne et le boulanger son charreton, où, sur 2 chaises solidement amarrées, monsieur et madame Perrol s'installèrent tant bien que mal au milieu des bagages et provisions accumulées par Scolastique. « Vous irez droit jusqu'à Entrepierre, » disait Scolastique qui connaissait le pays. « À Entrepierre, on quitte la grande route, mais tout le monde vous indiquera le sentier qu'alors il faudra prendre. Vous détellerez à mi-montée. Pour déjeuner, près d'une source qui est sous le chêne. Là, vous laisserez le charreton, parce que les voitures ne vont pas plus loin. Et madame montera sur l'âne. Saurez-vous battre l'âne au moins? J'ai attaché le bât à l'arrière de l'équipage. Après 4 bonnes heures de montée, moitié roulant, moitié trottant, conformément au programme de Scolastique, à travers buissons et pirailles, les voyageurs enfin arrivèrent devant le jas perdu de Bramefin. Ce n'est pas beau, dit madame Ambroisine, tirant sur le bridon pour considérer la masure rougeâtre en cailloux roulés avec son toit bas, d'où sortait un peu de fumée. Les blés sont clairs, reprit monsieur Victris. J'y vois dedans les grillons courir. Et madame Ambroisine conclut. « Dame, pour 150 francs par an, on ne peut pourtant pas avoir le château du marquis de Carabas. » Monsieur Vitry cédant, madame Ambroisine mit pied à terre, et tous les deux s'avancèrent, suivis de l'âne. Mais ce qu'ils voyaient, ce qui les entourait, avait un tel air de mystère qu'à l'idée de demander de l'argent, ils se sentaient déjà gênés. « Tu t'expliqueras le premier, Victrice. Il vaudrait peut-être mieux que ce fût toi, Ambroisine. » À leur approche, 2 galopins ébouriffés qui jouaient dans un tas de paille prirent la fuite. Leur mère, en train de filer sa quenouille sur un tronc d'arbre, se dressa. « Vous vous êtes perdus. vous alliez sans doute visiter Pierre Écrite. Alors, c'est plus bas, près de la source qu'il fallait tourner. Victrice regarda Ambroisine. Ambroisine regarda Victrice. Pourtant, le courage leur manqua. Ils laissèrent croire qu'ils s'étaient perdus et qu'ils allaient visiter Pierre Écrite. La fileuse parut soudain soulagée et dit « J'avais peur d'abord que vous ne fussiez monsieur et madame Pérolle, parce que le bien est à eux et que nous leur devons de l'argent. » Puis elle appela son mari. « Tu peux te montrer, Frédéric, ce n'est pas ce que nous craignons. » Frédéric descendit du grenier, suivi par les enfants, dont les yeux timides luisaient. Il offrit aux visiteurs du lait. Il n'avait pas de vin, du miel en rayon, des noix et des pommes. « C'est tout ce que l'on trouve ici. La terre est si pauvre. Heureusement que les nouveaux maîtres ne nous tracassent pas pour payer. Sans cela, on n'aurait qu'à mettre la clé sous la porte. De bien bonnes gens que nous n'avons jamais vus. Mais vous devez les connaître si vous êtes de la ville. » Ambroisine et Victrice dirent qu'en effet, ils connaissaient un peu les Pérolle. Cependant, le soleil baissait. Il fallait prendre une décision. « Parle !» disait madame Ambroisine. « Non, parle-toi !» disait monsieur Victrice. Ils ne parlèrent ni l'un ni l'autre. Bien mieux, quand madame Ambroisine remonta sur l'âne, alors la femme s'approchant. « Vous pourriez peut-être vous charger d'une petite commission, puisque vous retournez à la ville. Il s'agirait de porter cela de notre part à ce brave monsieur, à cette brave madame Pérolle. » C'était un grand coq, maigre et sec, qui protestait, lié par les pattes. On le suspendit au crochet du bas. Et le soir, quand les deux vieux firent leur entrée dans Canteperdrie sur le charreton, les gens disaient devant les portes, avec une nuance d'envie, « Voilà madame Ambroisine et monsieur Victrice qui s'en reviennent en voiture de toucher leur rente de brame fin. » 1887, fin de la nouvelle de Paul Arène, Les braves gens.